Je suis Marianne Claire et je travaille au Centre national des études spatiales depuis 1983 et je suis accrochée par les affaires du spatial. Depuis que toute petite, j'avais 10 ans, j'ai vu l'homme marcher sur la Lune. Donc c'est à ce moment-là que dans ma tête, il y a eu un déclic qui s'est produit et j'ai eu envie de participer à cette aventure. Alors pas en tant qu'astronaute parce que ça n'a jamais été une de mes envies. Je préfère le plancher des vaches, on va dire. Mais en revanche, tout ce rêve et cette ambition de l'humanité m'a beaucoup motivée pour continuer mes études et ensuite pour rentrer au Centre national d'études spatiales. Voilà. Donc, je suis une mordue du spatial depuis toute petite et je suis loin d'être toute petite maintenant et je continue à être mordue du spatial.
Alors, quel a été votre parcours d'étudiante?
Alors, bah écoutez, j'ai fait un bac scientifique, évidemment. Ensuite, j'ai fait des classes préparatoires. J'ai fait une école d'ingénieur. J'ai fait l'EPF avec une spécialisation en aéronautique et spatiale. Et voilà, donc un parcours, je dirais, assez classique d'ingénieur, ni trop, ni trop peu.
Alors, quel a été votre parcours professionnel?
Eh bien, donc en 1983, je me suis retrouvée dotée d'un diplôme d'ingénieur et à l'époque, on pouvait travailler. Il y avait plusieurs offres d'emploi qui s'offraient à nous. Hein. C'était une période plus faste peut-être qu'aujourd'hui. En tout cas, j'ai hésité longuement entre aller chez Dassault pour travailler sur le Rafale, qui était en cours de développement à l'époque, ou venir au CNES. Mais l'attrait du spatial me tenaillait vraiment et donc je suis rentrée au CNES. Comme ingénieur d'études au début sur les lanceurs à Évry. Hein, et puis ensuite, j'ai quitté Évry en 88 pour rejoindre les équipes satellites à Toulouse. Et c'est là où j'ai fait le plus gros de ma carrière, ou de mon parcours professionnel. J'ai été successivement eh bien, responsable des opérations de mise à poste de Spot 2. J'ai été en charge des interfaces ou de la phase propulsée d'Hermès, hein, donc interfaces entre Ariane 5 et Hermès à l'époque où on parlait de cette navette spatiale. Et puis, ben, l'issue d'Hermès étant ce qu'il a été, et je suis ensuite partie côté projet scientifique. Donc, j'ai été à la tête de pas mal de projets à vocation scientifique, d'astrophysique, d'astronomie, d'exploration de l'univers. Donc, on peut citer Intégrale, Microscope, Déméter et beaucoup d'autres, Corot, sur lesquels j'ai aussi pas mal travaillé. Voilà, donc ça m'a conduit à grimper aussi dans la hiérarchie. J'ai d'abord été ingénieur d'études, puis ingénieur système, puis chef de projet, puis chef de projet, et puis enfin sous-directrice. Et là, je suis partie m'occuper des affaires de ballons stratosphériques du CNES, encore des missions scientifiques, mais d'observation de la Terre. Et ça a été une période très intéressante et très enrichissante, puisque c'est une activité tout à fait spécifique en CNES, puisqu'on quitte les lanceurs et les satellites, mais on va quand même très haut dans l'atmosphère, hein, jusqu'à 40-45 km, avec des objets fascinants, parce que des gros ballons qui nous permettent d'emmener jusqu'à 1 tonne de télescopes au-dessus de l'atmosphère, ou quasi au-dessus de l'atmosphère, pas complètement, parce que s'il n'y avait plus d'atmosphère du tout, il n'y aurait plus de ballons non plus. Voilà, donc j'ai fait ça quelques années et puis ensuite je suis revenue dans le monde des lanceurs comme directrice adjointe. Ça, c'était en 2013 pour m'occuper notamment du dossier Ariane 6 et de la préparation du dossier Ariane 6 pour la ministérielle de 2014. Et puis ensuite, ben, je suis revenue dans le monde des satellites comme directrice. Jean-Yves Le Gall, qui était président du CNES à cette époque, m'a demandé de monter la direction des systèmes orbitaux, qui était donc une nouvelle direction à Toulouse, qui s'occupait du développement des satellites. Voilà, et puis au bout de 3 ans de cette activité de direction, on m'a proposé la direction du Centre spatial guyanais, donc, qui était aussi un poste, je dirais, assez emblématique dans mon imaginaire. Puisque en charge du lancement des lanceurs Ariane 5, Ariane Vega et puis Ariane 6 à venir. Donc, quelque chose d'emblématique dans ce que j'avais envie de faire en continuité de mes activités professionnelles.
Très bien. Avez-vous une rencontre particulière durant votre parcours d'étudiante ou professionnelle qui vous a influencé pour vous orienter sur cette très belle carrière, en fait?
Alors, il y a plusieurs personnes qui ont compté, je dirais, dans mon exercice professionnel, mais peut-être j'en citerai deux. D'une part, un de mes anciens directeurs de Toulouse, hein, qui s'appelait Michel Courtois à l'époque, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est à la retraite depuis quelques années. Et alors, lui, je ne sais vraiment pas ce qui lui a pris, je lui dis souvent, puisque je continue à le voir. Je ne sais pas ce qui lui a pris de nommer chef de projet d'un projet important du CNES une jeune femme qui n'était pas polytechnicienne et qui était encore en âge de faire des enfants. Donc je dirais quand même qu'à cette époque-là, il a pris une espèce de risque, ou je ne sais pas s'il faut dire un risque, mais enfin bref, il m'a fait confiance. Et j'ai été, puisque c'est lui hein, qui m'a proposé de prendre ce poste. Et quand j'y réfléchis encore maintenant, je me dis, mais dans le monde dans lequel on vivait à cette époque, qui était très masculin, c'était dans les années 90. Il m'a vraiment offert une opportunité que j'ai saisie, hein, bien sûr,
Bien
mais
sûr.
qui était quasi inattendue dans le monde dans lequel on vivait, en tout cas, qui était très surprenante. Donc lui, vraiment, il m'a ouvert les portes de la maison. Et puis, ce qui a été également déterminant et qui a confirmé, conforté ou encore plus ancré mon goût du spatial, ça a été la rencontre des astrophysiciens. Là, je ne m'attendais pas à voir des gens aussi passionnés, aussi passionnants. Donc, je me souviens beaucoup de missions où on parlait de la création de l'univers. Ils me faisaient des dessins sur les tables des restaurants en papier, là. Et moi, j'emportais la table du restaurant parce que c'était trop, trop fascinant, trop intéressant. Voilà. Alors, ça aussi, si vous voulez, ça m'a donné une espèce de souffle intérieur, qui m'a porté durant toutes ces années.
Très bien. Alors, pouvez-vous nous présenter la réalisation de trois grands projets actuels du CNES sur la base de lancement du Centre spatial guyanais?
Alors, trois projets emblématiques ici, je dirais. D'abord, il y a la rénovation de la base, puisque nous avons décidé en 2019 de mener un certain nombre d'actions de rénovation de la base. Cette base, elle avait été remise complètement à niveau pour les lancements d'Ariane 5, donc à la fin des années 90. Donc depuis, effectivement, on n'avait pas fait encore de ce qu'on appelle le grand carénage, hein, et donc de revisite complète de nos installations et de nos moyens. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a démarré ça en 2019 pour une première phase. Donc ça, c'est un projet très emblématique qui va toucher un nouveau centre de contrôle qui va permettre de gérer plusieurs lancements en parallèle et du coup d'avoir des durées, enfin des temps entre deux lancements qui vont être réduits, qui vont passer de 11 jours à 48 heures. Donc ça nous permettra d'avoir une base très flexible et donc d'améliorer notre compétitivité. On va également améliorer tous nos réseaux d'eau, nos réseaux d'énergie, en verdissant cette énergie avec des centrales photovoltaïques, avec, on l'espère, des centrales biomasse qui vont venir compléter notre jeu de génération d'énergie. Et puis également des rénovations sur nos radars, hein, les radars qui sont nécessaires pour la sauvegarde des populations au sol, puisqu'ils suivent le lanceur pendant les premières phases, notamment de la trajectoire, et ils permettent, indépendamment du lanceur, de savoir où il est. Et donc, dans un cas évidemment qu'on ne souhaite pas, mais ça peut arriver, pouvoir détruire le lanceur s'il devait quitter sa trajectoire nominale. Donc ça, c'est un des projets emblématiques de la base qui occupe beaucoup les ingénieurs actuellement. Deuxième projet emblématique, c'est l'arrivée d'Ariane 6, hein,
Bien
puisque
sûr.
l'année prochaine, en 2022, nous allons voir au CSG l'arrivée d'Ariane 6. Donc, on va inaugurer le pas de tir d'Ariane 6 qui s'appelle le LA4, l'ensemble de lancement numéro 4. Il va être inauguré fin septembre. Et donc, on va pouvoir démarrer en suivant de nombreux essais de compatibilité entre le lanceur et le pas de tir pour un premier lancement entre mi-2022, l'automne 2022, la date. Je ne l'ai pas exactement en tête, mais ce sera dans ces eaux-là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième projet emblématique. Puis je dirais qu'on a un troisième projet emblématique aussi au CG, c'est de s'ouvrir à des nouveaux opérateurs de lancement. On parle beaucoup des micro-lanceurs
Bien sûr.
qui fleurissent partout en Europe et ailleurs. Donc il y a beaucoup de candidats. Donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'élus, mais en tout cas, nous, on discute avec de nombreux industriels, de nombreuses startups de ces micro-lanceurs, de façon à ce qu'ils soient séduits par les installations du CSG. Je crois qu'on a vraiment comme atout dans notre manche le fait que on est une base opérationnelle. On réalise 11 à 12, on peut réaliser 11 à 12 lancements par an de façon régulière. On a tous les moyens techniques, humains, qui sont disponibles sur cette base pour réaliser ces lancements en toute sécurité, dans de bonnes conditions. de mise en œuvre. Voilà. Donc, je crois que par rapport à tout ce qu'on peut trouver ailleurs de gens qui parlent en ce moment, nous,
Oui.
les faits sont de notre côté, je crois. Voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut se reposer sur nos lauriers, bien sûr. Et on
Bien
est
sûr,
convaincus aussi que de discuter avec ces nouveaux entrants va nous permettre aussi, nous, de revisiter nos façons de faire et de nous orienter probablement vers des méthodes plus compétitives et plus agiles, puisque c'est quand même ce que le New Space, je dirais, apprend en ce moment à l'activité classique du spatial.
c'est vrai, oui. Alors, que représente le centre spatial guyanais? Combien, dit autrement, combien de personnes y travaillent? Quels sont les différents métiers, les collaborations internationales? Et combien effectuez-vous de lancements des différents lanceurs par an, notamment Ariane 5, Soyouz et Vega?
Alors, le CSG, ça représente 1 700 personnes à peu près, 1 700 salariés qui sont répartis dans 42 entreprises. Donc, ce n'est
Très
pas
bien.
1 700 salariés CNES, sûrement pas. Donc, ils sont répartis dans différentes entreprises et qui ont la mission bah, de produire ces lancements. Donc, ça veut dire évidemment des activités de fin d'intégration des lanceurs. Donc, ça, ce sont des activités qui sont portées par les grands maîtres d'œuvre lanceurs, que sont Ariane Group et Avio pour Vega, Ariane Group pour Ariane 5 et Avio pour Vega, de mener les opérations des lanceurs qui sont essentiellement portées par Arianespace, hein, qui est donc l'opérateur européen qui met en œuvre, enfin qui est responsable de ces lancements Ariane et Vega, et puis d'une gestion technique de la base qui est donc là la responsabilité du CNES, donc mise à disposition de tous les moyens communs, de tous les réseaux, qu'ils soient eau, énergie, à ces opérateurs de lancement, et ainsi que tous les moyens de poursuite, puisque nous sommes en quelque sorte à la fois responsables de la gestion de l'aéroport, mais également nous sommes la tour de contrôle. Si je fais une analogie avec des aéroports classiques, nous sommes également la tour de contrôle puisque c'est nous qui autorisons les lancements suivant les trajectoires proposées par les lanceurs. Et c'est nous qui sommes les garants de la sécurité, de la sûreté des biens et des personnes au sol et dans les établissements qui sont présents au CSG. Donc, ça, c'est la responsabilité du CNES, hein, d'assurer cela. Et avec ces industriels, puisqu'on a à peu près sur les 1 700 personnes, on est 250 personnes CNES et il y a à peu près 6 à 700 personnes qui travaillent pour l'aéroport, le reste étant plutôt dédié sur les aspects lanceurs. Voilà, ça, c'était la première partie de votre question. La deuxième partie de votre question concernait le nombre de lancements.
Quels
Donc,
sont
aujourd'hui.
Ouais, allez-y, allez-y, pardon.
Aujourd'hui, on peut lancer de 11 à 12 lancements par an sur cette base. On pourrait faire un peu plus si on nous le demandait. Je dirais que c'est notre cadence assez classique. Nous lançons des Ariane 5, nous lançons des Vega et nous lançons des Soyouz. Donc la répartition entre les lancements Vega, Soyouz ou Ariane dépend essentiellement du manifeste, je dirais du plan de commande, du carnet de commande d'Arianespace, puisque c'est Arianespace qui commercialise ses lanceurs.
Très bien, très très bien. Selon votre expérience sur les satellites, quels sont les défis à prendre en considération sur le développement des satellites d'application, des satellites scientifiques, en tenant compte du développement non négligeable sur la scène internationale des CubeSats, bien entendu?
Alors, évidemment, il y a l'enjeu de la miniaturisation. Le CNES travaille sur la miniaturisation des satellites depuis les années 2000 et moi-même, j'avais été chef de projet de la filière Myriad, hein, qui était donc une filière de micro-satellites. C'est-à-dire, c'était des satellites qui étaient autour de 200 kilos. Donc, ça, c'était dans les années 2000, enfin, fin des années 90. Le premier lancement de Déméter, qui s'appelait Déméter, a eu lieu en 2002. C'est un satellite qui faisait 180 kilos. Donc, à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire, puisqu'on n'était pas du tout dans ces gammes de satellites habituelles. Donc, on avait déjà cette préoccupation de la miniaturisation. Et je dois dire que c'est une préoccupation qui ne nous a pas lâchés et on a continué à travailler sur ces sujets. Et maintenant, d'ailleurs, nous avons, avec la société Emeria, créé une filière de nanosatellites opérationnels qui s'appelle les satellites, enfin, dont le premier du nom a été Angels. et qui a donné lieu d'ailleurs à la base technique pour la constellation Kineis, qui est une constellation d'IoT qui a notamment récupéré la mission Argos, hein, en ce qui nous concerne. Voilà, donc cette préoccupation de la miniaturisation, on l'a toujours eue. Alors, les CubeSats, en tant que tels, si vous voulez, les très petits nanosatellites, hein, donc, c'est-à-dire la taille d'une boîte de chaussures, voire même un peu moins, hein, CubeSat, ça peut même être une canette de Coca-Cola. Eh bien, c'est vrai qu'on n'a pas été jusque-là parce que, de notre point de vue et compte tenu de l'état de l'art actuellement, la plupart de ces satellites n'ont pas de vraies missions opérationnelles. C'est plutôt des missions de démonstration. Ça peut être des missions, ça peut être très intéressant pour des étudiants, pour des universités, pour comprendre comment marche un satellite. Ça, on peut les réaliser en assez peu de temps. On peut les lancer depuis la station spatiale. Mais on n'a même pas besoin d'avoir un lanceur dédié. Enfin, bon, voilà. Donc, on a effectivement toute cette population de vraiment tout petits nanosatellites que nous, on n'a pas vraiment développé en interne au CNES. Alors, on développe des technos. Donc, on essaie de miniaturiser de plus en plus les technos élémentaires. Hein, ça, l'électronique, la propulsion, le pilotage des satellites, essayer de trouver des moyens et des équipements de plus en plus miniaturisés et qui consomment de moins en moins. Donc là, oui, on est dans une stratégie de R&T sur ces sujets. En revanche, le fait d'assembler vraiment des satellites de la taille d'une canette de coca, ça, on ne le fait pas, nous, au CNES, c'est l'apanage des milieux universitaires, et c'est très bien, donc il en faut pour tout le monde. On pense quand même que pour des missions qui commencent vraiment à être opérationnelles, donc qui ont un objectif commercial ou une vraie mission scientifique, ces satellites-là sont un peu trop petits dans l'état de l'art actuel. Donc, il faut travailler sur les briques élémentaires et on verra après ce qu'il en est de ces tout petits satellites, nanosatellites.
Très bien.
Donc, ça, c'est un des premiers enjeux, mais ce n'est pas le seul. Je pense qu'il y a d'autres enjeux côté satellite que la miniaturisation. Moi, j'ai longtemps milité, sans succès d'ailleurs, mais bon, c'est comme ça, pour qu'on développe le vol en formation. C'est-à-dire que les satellites se parlent en orbite et se calent les uns aux autres pour avoir une mission plus autonome de leur partie orbitale, sans lien avec le sol. On n'a pas jusqu'à présent trouvé de mission suffisamment intéressante qui pourrait justifier ce type de développement, mais je suis convaincue que c'est une autre façon de penser la constellation des satellites. Aujourd'hui, les satellites, ils parlent avec le sol. Hein, donc chaque satellite part avec le sol et quand vous avez des vols en constellation, ils sont phasés par le sol. Et je pense que si on pouvait et ça commence hein, d'ailleurs dans les constellations de télécom, quand il y a des choses de cette nature, s'ils pouvaient se phaser entre eux directement sans passer par le sol, on gagnerait en réactivité et en opérationnalité et donc en compétitivité aussi.
Très bien. Très intéressant en tout cas. Sur votre passionnante et riche carrière, pouvez-vous nous citer un projet que vous avez préféré, même si je sais que c'est très difficile vu tous les projets auxquels vous avez participé, et un projet qui s'est terminé par un échec et qui vous a le plus touché?
Alors, dans les projets, le projet où le problème, c'est que j'ai une carrière qui commence un peu longue, donc ce n'est pas le projet, sinon ça aurait été un peu pauvre. Donc, le projet qui, lui, m'a vraiment mis le pied à l'étrier et qui m'a donné la possibilité de faire tout ce que j'ai fait après, c'est le projet du spectromètre intégral. Donc, intégral, c'était une mission de l'Agence spatiale européenne qui avait vocation à étudier les trous noirs et les étoiles à neutrons dans le domaine des rayonnements gamma. Et le CNES avait en charge, en maîtrise d'œuvre interne, c'est-à-dire en réalisation interne, la réalisation d'un spectromètre qui avait un plan de détection qui était refroidi à 85 Kelvin. Donc, c'était une mission excessivement complexe et difficile. Et j'ai eu la chance, et c'est ce fameux projet dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai eu la chance d'avoir été nommé chef de projet de la réalisation de cet instrument. Et c'est là que j'ai rencontré tous ces astrophysiciens, tous ces gens absolument passionnés et fascinants. Et puis aussi une équipe CNES assez conséquente que j'ai eu le plaisir de diriger et qui, c'est grâce à l'investissement de tous, je dois dire, le travail en équipe, là veut vraiment dire quelque chose, qu'on a réussi à sortir cet instrument en temps et en heure. Donc ça n'a pas été simple et j'y ai passé 7-8 ans de ma carrière professionnelle et ça a été vraiment très riche et très chargé d'enseignement. Voilà, après, les missions, je dirais, celles qui vous font vraiment battre le cœur, là, c'est typiquement dernièrement l'atterrissage sur Mars de Perseverance ou
Bien sûr.
d'InSight, hein. Là, c'est quand même les dernières minutes d'atterrissage sont vraiment quelque chose. C'est mieux que la foire du trône, hein, en termes d'émotion, en termes de bouleversement interne, en termes de.
C'est vrai,
Vous
ouais.
avez passé beaucoup de temps sur ces missions, vous voyez ça atterrir sur Mars. Enfin, c'est une satisfaction personnelle qui est absolument énorme et que rien ne peut remplacer. Avec une satisfaction aussi personnelle, je dirais, d'équipe. C'est-à-dire que, comme je le dis, et peut-être dans nos missions du spatial, c'est ça aussi qui m'a beaucoup intéressée, c'est qu'on ne fait rien tout seul. Je veux dire, on n'est pas un chercheur
Bien
dans un
sûr.
coin tout seul qui écrit des papiers et qui change le monde. Ben non, ce n'est pas ça, nous, notre boulot. Notre boulot, c'est de travailler en équipe. Et avec toutes les compétences, tous les métiers, et d'arriver à produire des objets qui ont des destins fascinants. Voilà. Et puis la mission, je dirais, phare, qui a bercé aussi mon enfance et même ma carrière professionnelle, au-delà de l'homme qui a marché sur la Lune, c'est les missions Voyager, qui actuellement sont en
Ah
train
oui,
de quitter le système
voyageur, ouais.
solaire. Et là, franchement, on ne peut rien à dire d'extraordinaire. C'est fascinant. Voilà. Alors, les missions tristes, bah, c'est les échecs. Hein. Donc, Hermès, qui a été une grande
Hermès,
déception
oui.
pour moi. Et à l'époque, je me souviens très bien, ma fille avait 4-5 ans. Hein, donc, elle était toute petite et elle nous voyait vraiment tristes et pleurer. Parce que j'ai pleuré quand on a arrêté Hermès. Et elle m'a demandé pourquoi et tout. Mais je lui ai dit, bah, on n'a pas assez d'argent. Et elle m'a dit, mais maman, si tu veux, moi, je peux arrêter de manger pour qu'il y ait plus d'argent pour faire le projet Hermès. Pour vous dire que quand même, ça me marquait,
C'est
puisque
durable.
manifestement, sa réaction était à hauteur de mon émotion de l'époque. Une autre mission plus récente, hein, sur laquelle j'ai pas mal travaillé, qui a eu un destin funeste, c'est Taranis. Donc, non seulement j'étais à l'origine de ce projet de microsatellite, qui fait partie de la filière des Myriades, mais en plus, j'étais au CSG en charge au Centre spatial guyanais, directrice du Centre spatial guyanais pour le lancement qui a vu la perte de Taranis. Et je sais combien bah, sur ce procès de la durée de développement de ce projet, ça a été plus d'une quinzaine d'années pour des équipes très motivées. Et évidemment, c'est un drame personnel aussi pour ces
Bien
gens-là hein,
sûr.
d'avoir passé tant de temps et pour le résultat qu'on connaît. Voilà, bah, écoutez, mais ça fait partie de la vie du spatial. Il ne faut pas s'arrêter à ça.
L'aventure spatiale, oui, c'est vrai.
L'échec est près de la réussite, très près.
Alors, que conseillez-vous aux jeunes filles et aux jeunes garçons intéressés par les sciences en général et le spatial et l'aéronautique en particulier?
Bah, je leur conseille. Alors, je vais vous dire, je leur conseille évidemment de faire des études hein, et de trouver le moyen de décrocher le bon diplôme. Mais je vais déjà dire qu'on peut être fasciné par le spatial sans être ingénieur ou technicien. Les gens de la communication, hein,
Bien
Tiffany
sûr.
Bouzul, vous voyez, fascinée par le spatial, je l'espère en tout cas, sinon ça n'ira pas. Mais elle n'est pas ingénieure. Donc vous avez aussi des gens de la communication, vous avez aussi des juristes, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du droit, du spatial. Donc il y a aussi des juristes, il y a des acheteurs, évidemment, des gens qui savent faire des contrats, qui aussi peuvent trouver dans le monde du spatial des métiers qui conviennent à la fois à leurs compétences et à leurs aspirations. Donc déjà, je pense qu'il ne faut pas limiter l'intérêt qu'on peut avoir sur le spatial au seul métier qui relève de l'ingénieur ou du technicien. Ça serait assez réducteur. Le spatial, c'est une aventure qui dépasse largement la dimension technique qu'elle a. Et donc chacun peut trouver sa place là-dedans. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Donc après, il faut quand même faire des études, hein, c'est sûr. Ça, donc il faut avoir le goût des études, donc soit d'un côté, soit de l'autre. Hein. Et puis enfin, moi, ce que je recommanderais, c'est souvent les gens qui sont fascinés par le spatial, c'est une forme de ressort interne. Il ne faut pas le perdre, ce ressort interne. Je crois qu'il faut au contraire l'entretenir pendant toute sa carrière, pendant toute sa vie professionnelle, parce qu'évidemment, on a des moments moins gais que d'autres, hein, parce qu'on rencontre des difficultés de toute nature, des promotions qu'on n'a pas, des postes qu'on avait envie d'avoir qu'on n'a pas, des collègues avec qui on n'a pas toujours envie de travailler, il y en a d'autres, c'est mieux. Bon, voilà, donc on rencontre aussi ou simplement le réveil qui sonne le matin et franchement, on n'a pas envie de ça. Évidemment, ça, c'est vrai pour tout le monde. Et il faut entretenir cette petite flamme intérieure qui vous permet de vous dire, ben, de vous rattraper quand même aux branches en vous disant, ouais, c'est sûr, bon, il y a tout ça, mais quand même, on atterrit
Ça
sur
vaut le coup.
Mars. Quand même, on décolle du CSG, quand même, on fait de l'observation de la Terre, quand même, on participe à la charte des événements catastrophiques, voilà, tout ça. Et ça.